Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
Sur Radio Présence, bienvenue pour démarrer cette soirée ensemble comme chaque lundi, c'est Soif d'autre chose, c'est l'émission jeune de la paroisse étudiante et pour vous accompagner sur ce début de soirée, je ne suis pas tout seul ce soir, je suis en compagnie de Louis-Marie. Louis-Marie, bonsoir. Et
bonsoir Enzo.
Bon alors, c'est pas toi qui as accroché ce nouveau portrait au Louvre?
Ah bah, peut-être que c'était nous deux, parce qu'ils étaient deux apparemment.
Ouais, c'est vrai, c'est peut-être nous deux, on a peut-être des fausses identités, d'où le passeport belge. Bon, jusqu'à 20h ce soir pour vous accompagner dans ce début de soirée au programme. Des chroniques, de la musique et un interview ce soir avec une petite rediffusion d'un interview qui avait bien marché. C'était celui de Pierre qui était chef scout. Voilà, la boucle est bouclée. Nous avons le programme pour ce soir pour démarrer cette soirée ensemble. Et pour démarrer cette soirée ensemble, nous prenons la direction de Paris où nous rejoignons Emma. Emma qui est étudiante en journalisme et qui va ce soir nous parler d'une période liturgique qui approche, c'est celle de l'Avent. Bonsoir Emma.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un temps qui est très important pour nous chrétiens chaque année, mais un temps aussi de contradiction envers les religions et les personnes. C'est le temps de l'Avent et le temps de Noël. Nous entendrons doucement dans cette période, des gens nous dire et nous pousser à la consommation. C'est cette période si particulière de l'année qui est représentée partout dans les rues, dans les vitrines qui commencent à scintiller, les marchés de Noël qui s'installent, et on entend déjà les premières musiques qui sentent bon la cannelle et le chocolat chaud. Et avec tout cela, revient cette fameuse frénésie de la consommation. Chaque année, c'est la même course, trouver le cadeau parfait, remplir les placards, préparer le repas, acheter encore et encore. On nous rappelle constamment qu'il faut profiter des promotions, qu'il faut gâter ce qu'on aime. Et bien sûr, offrir fait plaisir. Bien sûr, recevoir un petit cadeau réchauffe le cœur. Mais parfois, on se demande si on n'a pas un peu perdu de vue l'essentiel. Car Noël, avant d'être une fête commerciale, c'est une fête spirituelle. Noël, c'est la naissance du Christ. C'est ce moment bouleversant où Dieu se fait tout petit, fragile, humble, pour rejoindre notre humanité. Et la joie profonde de Noël ne se trouve ni dans les vitrines, ni dans les boîtes cadeaux, mais bel et bien dans cette lumière douce de la crèche, dans la chaleur d'une famille réunie, dans cette paix intérieure qui s'installe quand on se prépare vraiment à accueillir le Christ. Alors, avec ce temps de l'Avent qui arrive, pourquoi ne pas choisir une autre manière de vivre l'Avent ? Pourquoi ne pas décider d'en faire un chemin vers l'essentiel ? On peut se fixer une petite résolution, rien de spectaculaire, rien d'impossible, mais un geste simple, concret, qui nous aide à préparer notre cœur. Donc cela peut être d'être plus attentionné avec ceux qui croisent notre route, ou faire preuve de plus de charité, être plus aidant avec quelqu'un qui traverse une période difficile, cultiver la joie, même dans les petites choses du quotidien. Prendre le temps de dire merci, de développer une vraie gratitude, ou tout simplement passer plus de temps en famille en étant vraiment présent, vraiment à l'écoute. Ou aussi passer moins de temps sur notre téléphone et lire un bon bouquin qui nous instruit, qui nous élève, qui élève l'âme et le cœur. Car au fond, l'Avent, ce n'est pas un sprint vers le 24 décembre, mais c'est un temps de douceur, un temps d'attente, un temps pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Alors oui, on peut acheter quelques cadeaux, décorer notre maison, se réjouir des festivités qui s'annoncent, car tout cela est beau et tout cela est voulu par Dieu. Mais n'oublions pas ce qui donne à Noël sa beauté unique, qui est un Dieu qui vient jusqu'à nous, et une famille, la nôtre, avec qui partager cette joie. Que chacun de nous, en ce temps de l'Avent, trouve sa petite résolution, sa petite lumière, et qu'elle nous conduise pas à pas vers le cœur de Noël, vers le cœur de Dieu.
Présence.
Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez pour vos cœurs, car il vient le Sauveur. Tracez la bannière pour mon Dieu, et là-bas, sur
19h07 sur Radio Présence, nous sommes de retour pour démarrer ce début de soirée ensemble. Et comme chaque lundi, nous retrouvons Louis-Marie. Louis-Marie qui nous fait découvrir le calendrier liturgique. Et cette fois, Louis-Marie, tu vas nous faire un petit rappel sur tout ce qui s'est passé ces dernières semaines sur le calendrier liturgique.
Oui, évidemment. Lundi dernier, on s'était pas vu. Donc on va revenir un peu sur ce qui s'était passé. Donc lundi dernier, nous fêtions Saint-Martin de Tours. Donc quelques petits mots quand même sur lui. Donc Saint-Martin, il est né au 4e siècle en Hongrie, c'est l'une des figures les plus populaires de la chrétienté. Il était d'abord soldat de l'armée romaine, mais il est surtout célèbre pour un geste simple, la charité de Saint-Martin. Et c'est un geste assez bouleversant. En fait, un jour, il voyait un pauvre qui était transi dans le froid. Il coupa son manteau en deux pour le partager avec lui. Et cette scène est devenue vraiment emblématique et a révélé un homme profondément marqué par l'Église, bien avant son baptême, parce qu'à ce moment-là, il était encore que catéchumène. Donc ça peut donner un vrai signe d'espérance aussi pour tous nos catéchumènes, de ne pas attendre de recevoir les sacrements pour agir chrétiennement et suivre l'Évangile. Après avoir quitté l'armée, Martin devient moine. Il fonde l'un des premiers monastères d'Occident à Ligugé. Il est appelé presque malgré lui à devenir évêque de Tours. C'était un pasteur humble, proche du peuple. Il a parcouru inlassablement la région pour annoncer la foi, lutter contre les injustices et abattre les suppressions. Il va abattre les superstitions, pardon. Mort en 1397, il laisse une trace immense. Son tombeau devient l'un des plus grands lieux de pèlerinage d'Europe. Aujourd'hui encore, Saint-Martin reste le symbole d'une charité concrète, celle qui se manifeste dans les gestes simples, audacieux, capables de transformer la vie. Et donc pour revenir un peu plus récemment sur les actualités du calendrier liturgique, Enzo, est-ce que tu sais ce qu'on fête récemment depuis le début du mois de novembre ?
Alors moi je dirais tous les saints, peut-être.
Alors un petit peu, donc évidemment on avait la Toussaint au début du mois, mais aussi chaque ordre religieux fête un peu un tour de rôle tous ses saints. Donc on peut citer par exemple l'ordre des Dominicains qui fête tous ses saints le 7 novembre, donc on peut compter évidemment le saint fondateur Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin. Le 13 novembre, c'était autour des Bénédictins, donc Saint Benoît évidemment, Saint Scolastique, Saint Maur et aussi Sainte Gertrude que nous fêtons aujourd'hui. Et les Augustiniens aussi, comme notre pape, fêtent tous leurs saints aujourd'hui, enfin tous leurs saints le 13 novembre aussi. Et le 14, par exemple, avec les Carmes pour Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux et Saint Jean de la Croix. Donc voilà, ça c'était pour le début du mois. Et puis après, on a aussi quelques événements qui arrivent dans la semaine, dans le calendrier liturgique. Donc on a la dédicace de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est quand même un lieu assez majeur de la chrétienté. Et puis plus tard, on se retrouvera pour parler un peu plus en détail de Sainte-Cécile.
Eh bien, merci Louis-Marie. Et d'ailleurs, on retombe sur nos pattes. On va écouter Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat, un chant très connu du côté du Vatican. On se retrouve juste après ça.
Je suis
19h17, toujours en direct sur Radio Présence pour vous accompagner pour ce début de soirée. Alors on va retrouver donc Léopold et Mathéo pour un petit replay qu'on va vous passer cette semaine d'un interview. C'était un chef scout, c'était Pierre qui était avec nous il y a quelques semaines pour nous témoigner de son engagement.
Salut Pierre. Bon, alors du coup, on reçoit Pierre Malo, il a 24 ans, il est chef de troupe à la 9e montagne Toulouse. Oui, les scouts montagne, ça existe, ils sont pas juste sur la terre. Enfin du coup si, mais aussi à la montagne. Et voilà, il est en dernière année à l'ENAC, une école d'ingénieurs toulousaine. Et surtout, il s'y fait sa troisième année en tant que chef de troupe. 3 ans, c'est long, Pierre. C'est ta dernière année.
Salut les gars, merci de m'accueillir déjà ce soir pour parler de scoutisme. Troisième année, c'est long. Ah, écoute, oui et non, parce que quand on fait 3 ans, c'est qu'on aime ça quand même. Mais bon, effectivement, être occupé tous les 2 week-ends, tous les 3 week-ends et l'été, ça commence à faire.
Ouais. Oui, pour ceux qui connaissent pas, tu peux peut-être nous expliquer en quoi ça consiste. Quel est ton programme? Quelles sont les activités hebdomadairement?
Alors, comment fonctionne le scoutisme? Alors déjà, le scoutisme, c'est l'idée d'apprendre aux jeunes tout ce qu'ils peuvent pas apprendre sur les bancs de l'école. Mmh. Il y a 5 buts pour le scoutisme. Je les ai sous les yeux parce que je connais pas par cœur. Raison. Mais bon, ça reste quand même central et c'est ce qu'on retrouve toujours dans nos activités. Il y a la santé et le développement physique, évidemment. Tu vois, le campisme, le fait d'aller en montagne, se dépasser. Le sens du concret, évidemment. Les gars se servent de leurs mains, plus que de réflexion. Les activités sont vraiment dans le concret. La formation du caractère, justement, cette idée de se donner à fond dans ses activités, se dépasser, ça forge un caractère. Le sens du service, évidemment. Mmh. On sait tous que le plus important chez les scouts, c'est la bonne action quotidienne. Et tout ça, évidemment, avec le sens de Dieu, qui est central pour nous, du moins chez les scouts d'Europe. Avec l'idée que, voilà, les garçons évoluent dans la nature et... le principal, c'est de se tourner vers la création et de la respecter.
Tu dis les gars, évidemment, parce que j'imagine que tu penses à tes petits scouts quand tu parles, mais ça existe aussi avec les filles, ça s'appelle les guides. Et en fait, les mouvements, alors c'est des mouvements, les mouvements sont mixtes, enfin, les scouts et guides d'Europe, c'est comme ça qu'on les appelle pour les scouts d'Europe. Mais après, au sein des troupes et des compagnies, là, c'est que les mecs ou que les filles. Mais globalement, qu'on soit un mec ou une fille, on peut complètement être scout.
Bien sûr. Effectivement, c'est peut-être la particularité de notre mouvement ou comme celui des SUF, par exemple. On ne mélange pas les garçons et les filles parce qu'on pense que, en l'occurrence, à l'adolescence, c'est un âge où c'est important qu'ils se construisent en tant que garçon d'une part ou en tant que fille d'autre part. Mais il y a d'autres mouvements scouts qui ont fait le choix de les mélanger plutôt.
Ouais, pour clarifier un peu, tu parles de mouvement scout. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous expliquer grossièrement les différents SIA et les différents mouvements et même l'histoire un peu du scoutisme, comment ça s'est développé, si tu as quelques éléments d'information qui peuvent intéresser les auditeurs.
J'ai passé la formation McLaren cette année, justement, c'est un peu l'aboutissement de la formation des chefs scouts chez les scouts d'Europe, donc voilà, c'est pas mal, ça me permet de réviser.
Parfait.
Le scoutisme, c'est né au début du 20e siècle. Ça a été fondé par Baden-Powell, un général britannique.
Britannique.
qui voyait des garçons désœuvrés dans les villages anglais. Et donc l'objectif, c'était voilà, de leur donner une tâche bien précise, celle d'éclaireur, et de former ces gars-là, de leur donner voilà, quelque chose de concret qui puisse servir leur pays. Tout en se développant et justement voilà en développant le sens de la patrie et tous les sens dont on a parlé juste avant. Et donc c'est de là que c'est parti, et puis ça a très vite touché l'Europe. Ça s'est très bien développé en France avec le père Jacques Sevin qui a fondé le scoutisme catholique français, les scouts de France à l'époque. Et ensuite ça a pris beaucoup d'ampleur. Faut se dire que dans les années 40-50, tous les jeunes connaissaient le scouting. Tous les jeunes n'étaient pas scouts, mais c'était très très répandu, beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Ah oui.
Et donc, effectivement, avec le temps, il y a eu des réformes, notamment chez les scouts de France, qui ont modifié un petit peu la pédagogie. Donc, c'est là que d'autres mouvements scouts sont nés, pour faire court. Les scouts d'Europe, notamment, les éclaireurs neutres, les scouts unitaires de France, voilà.
Et est-ce que le scoutisme c'est ouvert à tout le monde? Je veux dire, est-ce que c'est uniquement catholique? Je sais, je crois savoir qu'il y a du scoutisme chez les juifs.
Bien sûr.
Voilà, par exemple. Mais est-ce qu'il y a du scoutisme laïque?
Alors, le scoutisme, évidemment, c'est fait pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. En l'occurrence, pour notre mouvement, les Scouts d'Europe, qui est un mouvement scout catholique, on demande quand même aux familles, aux garçons qui veulent s'inscrire de cheminer dans la foi catholique. C'est central chez nous. Si ce n'est pas leur objectif, ils vont avoir du mal à s'approprier notre pédagogie. Hein. Le sens de Dieu est vraiment très ancré chez nous. Mais il existe des mouvements scouts d'autres confessions, des scouts musulmans, des scouts juifs, effectivement, qui ne sont pas aussi développés, entre guillemets, dans le sens où ils ne sont pas aussi nombreux, aussi répartis sur le territoire français, mais c'est totalement accessible. En fait, le scoutisme, à la base, même si, disons que ça a pris sa forme la plus aboutie, la plus développée avec avec les scouts chrétiens catholiques. Il faut savoir qu'au départ, Baden-Powell disait peu importe ce en quoi croient mes scouts, du moment qu'ils croient en quelque chose. Et donc ça montre bien que l'idée initiale, c'était de former des garçons qui puissent servir leur pays, être utiles et se trouver une place sans forcément tout de suite parler de confession, de religion.
Ok, voilà. Très bien.
C'est une école de la vie en général, le scoutisme.
C'est une école de la vie en général, exactement. Oui, tout à fait.
Bon, alors cette école de la vie, on a tous envie de la découvrir. Comment on fait concrètement? Comment ça se passe? À quel âge on commence?
Alors, je vais parler du coup pour mon mouvement scout. Alors chez nous, chez les scouts d'Europe, on peut commencer à 8 ans avec la meute. De 8 à 12 ans, qui est grosso modo l'âge où les petits garçons seront... évolueront en meute, qui est un peu l'unité de base, c'est-à-dire qu'ils seront une vingtaine à peu près autour de leur chef, de leurs encadrants, et c'est là qu'on découvre un petit peu la vie dans la nature, avec l'imaginaire du livre de la jungle. C'est un peu, si vous voulez, une introduction au scoutisme, parce que l'âge scout central, entre guillemets, c'est la branche 12-17 ans, donc après la meute.
Là, les garçons, à la troupe.
Exactement, on monte à la troupe. Et là, c'est vraiment le scoutisme, pur et dur, on est dedans. Les garçons sont répartis par 7-8 dans des patrouilles et font toutes leurs activités en patrouille. Donc on voit déjà que l'unité de base a un peu réduit, on n'est plus à 20 en meute, on est à 6-7-8 en patrouille. Et puis ensuite, s'ils le souhaitent, ils peuvent continuer à la route. Entre 18 et 20, 21, 22 ans à peu près. Là, l'unité de base va encore se restreindre, ce sera le routier. Donc vraiment, on se focalise sur sa progression à soi. Et donc là, ce sera beaucoup plus de la marche, du service, de la prière, du recueillement. Moins d'aventures, entre guillemets, qu'à l'âge scout, mais
tout aussi bien.
Oui.
Et juste comment ça se goupille une année de scoutisme? Ça recommence tous les ans quand on se réengage. Si tu parlais plutôt pour les scouts terrestres et le scout de base, et après on pourra épiloguer sur les différents types de scoutisme, montagne, marin.
Bien sûr. Alors effectivement, le scoutisme, ça fonctionne effectivement par année. Tu as tout à fait raison de le rappeler. Chaque début d'année, donc on constitue nos patrouilles, qui sont quand même assez cohérentes avec l'année précédente à chaque fois. Hein. Mmh. Et tout se construit dans l'optique d'un camp, qui est vraiment le
climax.
Le couronnement, exactement. Le climax, chercher le mot. C'est le couronnement de l'année. Tout se construit en vue du camp. On construit nos activités, les techniques qu'on va aborder en vue du camp. Et c'est comme ça que ça s'articule, effectivement. Donc, des week-ends pendant toute l'année où on forme les garçons sur les techniques, toujours en se basant sur le principe du jeu. Hein. C'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est un moteur du scoutisme, le jeu. Et donc, en vue de ce camp-là qui a lieu à l'été. Et donc, une fois que le camp d'été est terminé, il y a les grandes vacances pour les gars. Et puis, on se retrouve à la rentrée en septembre et hop, c'est reparti pour une nouvelle année. Voilà.
Mmh. Okay. Et concrètement, le type d'activité que vous faites? Parce qu'on a l'image d'aller camper, d'aller, je sais pas, cueillir les champignons, peut-être faire de la pêche.
Alors, faut savoir que y a beaucoup de pistes, c'est comme ça qu'on appelle ça, des pistes, c'est-à-dire plein de techniques différentes, plein de choses qu'on peut aborder pendant nos activités scouts. Alors, je vais parler pour notre cas, les scouts montagne. Alors, à quoi ressemble une activité type eh ben, les garçons se retrouvent à la gare à Toulouse, et puis ils prennent le train jusque, on va dire, soit du côté de Luchon, maintenant qu'il y a une nouvelle ligne, soit du côté de, soit du côté de l'Ariège, et puis donc ils descendent dans une, ils descendent en Ariège, dans une gare en montagne, et à partir de là, ils vont marcher un petit peu, se retrouver dans un coin isolé qu'on a repéré déjà en avance. Ils s'installent, donc ils montent leur tente, ils montent leur feu, et ensuite il y a des activités. Donc en fonction des cycles, on fait pas forcément les mêmes activités. En l'occurrence, on a commencé par du froissartage cette année. Froissartage, c'est le fait de travailler le bois, de faire des constructions qui ne tiennent qu'avec du bois.
Voilà. Genre des bancs, des tables.
Excellent. Pas de ficelle, pas de clous, ah ça oui, fonctionne oui. uniquement avec du bois. Et donc pour faire du froissartage, il faut connaître les essences de bois, il faut connaître comment fonctionnent les outils, quel bois on peut couper, comment faire les assemblages. Donc en fait, ça nécessite beaucoup de choses. Et puis à côté, il y a aussi l'orientation, la topographie, les cartes, la cuisine, l'expression, les chants, les jeux. Voilà, il y a énormément de choses à aborder. Donc en fonction des week-ends, voilà, on fait des jeux, on travaille des techniques différentes, voilà, tout au long de l'année.
C'est vrai que ce sont des disciplines finalement qu'on n'apprend pas trop à l'école et que
c'est vrai.
Peut-être les essences de bois, peut-être la faune et la flore, ça c'est peut-être un peu perdu en dehors de l'école. Enfin,
effectivement.
En général, quoi, dans la population.
Peut-être pour les gens qui connaissent pas du tout, ils peuvent apparenter ça à genre un espèce de Koh-Lanta pendant un week-end et avec un peu plus de pédagogie.
Moins hardcore quand même.
Moins hardcore parce que il y a quand même de la
manger.
Bouffe et tout. Oui, notamment. Mais globalement, voilà, ouais, c'est ça. Et le but, c'est de se dépasser, de
bien
camper,
sûr.
Et surtout avec un vrai objectif pédagogique derrière. Mm-hmm. C'est que les chefs, vous êtes là aussi pour faire grandir aux jeunes.
Complètement.
Et voilà. Mais dans l'idée du dépassement de soi et de camper, il faut faire du feu, faut monter sa tente, tout ça. Bon, t'es pas en zone tropicale avec des vipères partout. Mais à la montagne, ça peut vite être dangereux quand même.
Ouais, mine de rien, hein, ça arrive vite. Oui, est-ce que toi, dans ton histoire personnelle, t'as eu des cas dangereux, un peu délicats à gérer
Dangereux, je dirais, donc pas forcément. En fait, on a quand même pas mal de garde-fous. Hein. On emmène les garçons n'importe où.
Voilà.
Ouais. Je dirais que effectivement, il y a des situations où c'est pas évident. Tu vois, je me rappelle le camp d'hiver l'année dernière. Comme on est une troupe spécialisée montagne. D'ailleurs. Petite dédicace à la 9e montagne Toulouse, quand même, faut le dire. les garçons campent pas mal dans la neige en hiver. Et donc, on a un camp d'hiver en février. On part camper 4 jours dans la neige. Donc, en l'occurrence, nous, c'était au lac des Bouillouses l'année dernière, donc à 2000 mètres d'altitude à peu près. Et donc, on passait 4 jours dans la neige. Donc,
ouais,
c'est quand même assez costaud.
Ouais.
Surtout pour les gars qui ont 12 ans, quoi.
Ouais. Ouais. Ils étaient à la meute avant. Ils avaient leur chef Ten qui était tout gentil. Et là, on va camper dans la neige.
Même si c'est pas forcément dangereux, en fait, on se dit que
une hypothermie, c'est vite arrivé.
C'est vite arrivé, effectivement. Donc, on est équipé, on a ce qu'il faut, on surveille bien les garçons, parce que la météo peut aussi vite changer en montagne. Donc, on est là pour réagir, mais voilà, c'est quand même difficile. Mais ce qui est vraiment intéressant avec tout ça, plutôt que de parler de difficultés, c'est ce que les garçons apprennent derrière. Le sens de la débrouillardise. Quand à 12 ans vous campez dans la neige en montagne, je peux vous dire qu'après il y a peu de choses qui vous impressionnent dans la vie. Et donc c'est vraiment intéressant de se dire que voilà, les garçons grandissent vraiment avec ce sens du concret. Ils sont sur le terrain. C'est-à-dire que voilà, si tu te débrouilles pas, si tu fais pas ton abri correctement en neige, bon, si les chefs seront là pour venir t'aider, mais il y a un côté, voilà, je me débrouille un peu avec ce que j'ai sous la main et je fais comme je peux, quoi. Voilà.
Alors, juste moi, j'ai des souvenirs. Les chefs sont là pour t'aider. J'ai des souvenirs quand même de. Moi, j'étais scout marin.
Oui.
J'ai des souvenirs de week-ends, des week-ends où on dort sous la tente et là, il se met à pleuvoir drache. Et il y a de l'eau qui commence à rentrer par en dessous de la tente et tout.
Ouais, c'est bien ça.
Et là, là, les chefs, ils dorment, hein. Donc, t'as ton petit groupe de 7, t'as le chef de patrouille, le second de patrouille, et puis, t'as les autres. Avec les petits culs de pattes qui ont 12 ans, donc ils ont entre 12 et 17 ans. Mais à 17 ans, j'étais le second de mes meilleurs amis du lycée, voilà, et ben, on se réveille, et là, faut bouger tout le monde, et le petit 12 ans, il découvre, il se dit, c'est quand même pas comme au Louveteau, et puis, on est là, on sort toutes les affaires, et tu sors sous la pluie, et tu te débrouilles, quoi.
C'est ça, un scout marin, c'est ça, en fin de
compte. Ouais, le chef, il dort. Ouais, là, c'était le bateau, il était à terre, hein, c'était la tente.
Il t'en garde quand même,
ça va nager,
voilà.
Oui, c'est clair que les chefs sont là s'il y a vraiment un danger. Oui. Évidemment, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais effectivement, voilà, il faut quand même travailler un peu son esprit débrouillardise.
L'autonomie.
Exactement, l'autonomie, c'est tout l'objectif, que les garçons deviennent autonomes. Tu vois, c'est pour ça qu'ils prennent le train pour aller en montagne, en l'occurrence pour nous. C'est que voilà, depuis la gare jusque dans les Pyrénées, les gars sont autonomes. Ils se débrouillent en fait. On est là pour surveiller évidemment leur programme, ce qu'ils vont faire, mais l'idée c'est vraiment qu'ils soient autonomes. Et c'est fou en fait, il y a que le scoutisme qui permet d'être autonome comme ça entre 12 et 17 ans aujourd'hui. Quoi.
Oui.
Ça paraît un peu fou vu de l'extérieur de dire qu'il y a voilà, 7 gars qui vont partir comme ça entre 12 et 17 ans en montagne pour un week-end quoi.
Et moi scout marin, le week-end on partait, on allait alors c'était à Bordeaux, on allait au port de l'Atécoer qui est pas très loin de Bordeaux.
Excellent.
Et on avait nos bateaux, des bateaux qui appartiennent au mouvement scout d'Europe. Du coup, j'étais scout d'Europe aussi, au mouvement scout d'Europe du district de Bordeaux. Juste à l'échelle européenne, les mouvements sont répartis par pays, au sein des pays par district, c'est les régions, t'as plusieurs troupes par ville, etc. Voilà. Donc à Bordeaux, à Toulouse, c'est des grandes villes, il y a plusieurs troupes, tu vois. Pierre, c'est la 9e montagne.
C'est ça, oui.
Ça veut dire que j'imagine qu'il y a une première, une troisième, une cinquième, une septième.
C'est ça. Peut-être pour dire aux gens qui nous écoutent que chez les scouts d'Europe, les groupes sont numérotés impair pour les garçons et pair pour les filles.
Ah d'accord.
C'est pour ça que les garçons, ça fait première, troisième, cinquième, septième.
Et les filles, deuxième, quatrième, sixième.
Exactement. Mais donc ça fait quand même une ribambelle de groupes. Il y a pas mal de scouts d'Europe dans la province effectivement. Ouais.
Et donc on partageait nos bateaux avec la compagnie marine des guides qui était la quatrième je crois. Et donc c'était la quatrième marine pour les filles et la septième marine pour les gars. Et donc on se trouvait au port. Alors du coup pas avec les filles. Et voilà. Et le week-end, enfin le samedi, on allait passer notre journée sur les bateaux. Le matin on se levait tôt, on allait gréer les bateaux. Ça veut dire les sortir du port, monter les voiles, tout ça, les préparer, on pique-niquait sur les bateaux, c'était trop bien. T'avais les chefs qui étaient dans un Zodiac, qui suivaient tout le monde, c'était super.
J'y pense d'ailleurs comme ça, mais effectivement, on n'a pas parlé de la progression scout, c'est vrai que c'est quand même assez central. Faut se dire quand même que c'est un type d'éducation qu'on dit intégrale et personnalisée. Intégrale parce qu'effectivement, on aborde un peu tous les domaines et toutes les dimensions de l'homme pour faire grandir les garçons, tous les sens dont on a parlé au début. Et puis personnalisée parce qu'en fait, les garçons ont une progression personnelle donc qui leur est propre et qu'ils puissent avancer dans les domaines qu'ils souhaitent à leur vitesse. Et donc en l'occurrence le point phare du scoutisme, c'est la promesse scout. Effectivement, c'est là que tout commence. Alors c'est pas une progression, c'est un engagement. C'est à dire que quand on est prêt, quand on se décide à prendre sa promesse scout, et ben voilà, on en fait part à son chef et on peut prendre sa promesse. Prendre sa promesse, c'est promettre de respecter les articles de la loi scout et de se comporter scoutement dans le monde de tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est récité. En l'occurrence, chez nous, le texte, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon Dieu, l'Église, la patrie et l'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances, à observer la loi scout. Et donc, ça se symbolise par un symbole de la main droite où on lève les trois doigts
du milieu.
Trois doigts du milieu, c'est plus facile. Ouais. Et puis, on place son pouce sur son annulaire. Symboliser que le plus fort protège le plus faible. Et ces trois doigts levés, juste au-dessus, symbolisent les trois vertus, franchise, dévouement, pureté. Chez les scouts, voilà.
Ouais.
Et puis donc effectivement tout ça, cette promesse, elle est centrée évidemment sur la foi catholique pour les scouts d'Europe, pour les SUF, pour les mouvements disons les plus répandus. Donc cette question de la foi, elle est très centrale, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'en fait la branche des 18-25 ans, on pourrait dire, existe après la branche scout, c'est qu'on invite vraiment les garçons, enfin en tout cas le but final, c'est vraiment de faire des garçons des bons chrétiens quoi. Et donc l'idée de cet âge 18-22, c'est de beaucoup plus approfondir leur foi, donc avec de la marche, avec la prière, de la vie en communauté d'hommes, ce qu'on appelle donc la route, qui est d'ailleurs symbolisée par dès le début d'année par un grand rassemblement qui est fait d'ailleurs cette année, c'est 50 ans, le rassemblement de Vézelay à la Toussaint, dont l'objectif est voilà de rassembler les routiers scouts d'Europe de toute la France, et même au-delà de la France d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des étrangers certaines fois, voilà, autour d'un pèlerinage jusqu'à Vézelay pour une adoration eucharistique tous ensemble le samedi à l'arrivée à Vézelay, et puis la messe aussi. C'est un moment très fort parce que voilà, quand on voit 2000 gars de 20 ans rentrer dans une basilique en chantant, en priant, c'est impressionnant. Oui, et je recommande vraiment à tous les gars qui ont l'âge, qui ont la possibilité de le vivre, pas besoin d'ailleurs d'être forcément scout depuis toujours ou d'être même routier, on peut le vivre comme ça et c'est vraiment intéressant, c'est une expérience à faire en tout cas.
T'as parlé de la progression notamment avec ce point phare qui est la promesse, mais faut bien préciser que cette progression là en fait elle est sur tout ton parcours depuis le louftisme, donc quand t'es louveteau dans la Meute, tes deux yeux, tu fais ta promesse et ta promesse louveteau qui est un avant-goût de la promesse scout, et après quand t'es scout tu passes ta promesse, tu obtiens des badges, oui. Tu obtiens voilà, c'est et très après et voilà, très progressif, mais t'es un pilier, enfin après la promesse au scout tu peux devenir pilier de patrouille, pilier de troupe, avec l'âge tu grandis, tu aides les autres, et après à la route t'as là pour le coup maintenant tes progressions elles sont vraiment très personnelles, tu les passes quand tu veux, t'as le compagnonnage routier, le départ routier. Le départ routier, c'est vraiment l'apogée de la progression.
Oui, complètement, oui.
T'as tout fini.
Voilà. Effectivement. Peut-être pour situer aussi les gens qui nous écoutent, puisqu'on parle entre étudiants, entre jeunes, on pourrait se dire, effectivement, si j'ai 20 ans aujourd'hui, là, et que je suis intéressé par le scoutisme, est-ce que je peux faire du scoutisme? Évidemment. Évidemment qu'on peut faire du scoutisme. Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer, sans avoir fait de scoutisme et en ayant 18, 20 ans, c'est d'essayer de commencer éventuellement par la route. Donc, ce temps fort, spirituel, cette vie entre hommes, en communauté d'hommes, pour un temps voir un peu comment ça fonctionne, et puis en fait grandir aussi personnellement, et puis pourquoi pas enchaîner assez rapidement sur le scoutisme en lui-même, en devenant encadrant, entre chef scout, disons que les chefs scouts qui sont sur le terrain avec les garçons qui ont 12-17 ans là, donc eux ont entre 20 et 25 ans généralement, et ça c'est ouvert à tout le monde. En fait, il suffit de trouver une maîtrise, donc un groupe d'encadrants qui a déjà de l'expérience,
qui recherche des chefs
pour découvrir soi-même sans problème. Ouais. Voilà.
Et toi, dans ton parcours, peut-être, qu'est-ce que tu as trouvé dans le scoutisme? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussé à avoir ce genre de responsabilité, à continuer autant? Et finalement, est-ce que ça te parle vraiment en toi? Est-ce que ça te prend les tripes? Qu'est-ce que t'as retrouvé?
Écoute, j'ai tout trouvé. En fait, vraiment, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'entame ma troisième, comme tu disais, et dernière année, en tant que chef de troupe, quand même, pas mal d'implications. C'est que j'ai à cœur de rendre ce que j'ai reçu. En fait, je pense que sans le scoutisme, je me tiendrais pas debout de la même manière aujourd'hui. C'est clair que ça a apporté énormément de choses. Tu vois, ne serait-ce que le sens de l'observation, le fait d'être proactif, d'être débrouillard, tout ça, je le dois au scoutisme. Toutes les choses que j'ai pu apprendre aussi.
Le don de soi.
Le don de soi, le service, en fait, c'est immense. Hein. On a du mal d'ailleurs à décrire à posteriori ce que ça nous a apporté.
C'est l'école de la vie, c'est vraiment ça.
C'est personnellement, voilà, je ne me verrais pas sans scoutisme aujourd'hui.
Ah, on le sent. On voit, ça t'épanouit, ça te parle.
Et je pense que c'est primordial, et c'est pour ça que personnellement j'aime beaucoup de temps pour que les gars puissent faire du bon scoutisme. C'est important qu'ils puissent le vivre et de le partager un maximum, c'est vital pour eux quoi.
Ça poussera peut-être certains de nos auditeurs à se tourner vers le scoutisme, parce que c'était un beau discours. Merci beaucoup
Pierre.
Avec plaisir.
h 41 sur Radio Présence, on se retrouve dans quelques instants, mais avant ça on écoute Clara Luciani avec La Grenade. Très bon début de soirée ensemble sur les ondes de Présence.
Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui
imagine. Je suis aussi vorace, aussi vivante que toi. Sais-tu que là, sous ma poitrine, une rage sommeille que tu ne soupçonnes.
h 44 sur Radio Présence, on retrouve encore une fois Louis-Marie. Louis-Marie qui va nous parler aujourd'hui, du calendrier liturgique et en plus particulièrement de Sainte-Cécile.
Oui, exactement, Sainte-Cécile qu'on va fêter ce samedi 22 novembre. Donc, en partant à la rencontre de cette figure qui a été chère et qui l'est toujours d'ailleurs, chère au cœur de l'Église. Une femme dont la vie a traversé les siècles comme une mélodie de fidélité et de courage. Sainte-Cécile, vierge martyre, sainte patronne des musiciens. Cécile, c'est l'une des plus grandes saintes des premiers siècles de l'Église. Au moment où confesser le nom du Christ dans l'Empire romain revenait à signer son arrêt de mort. Elle est la fille d'une famille noble, elle a grandi dans la foi chrétienne à une époque où la foi se transmettait dans les maisons, presque clandestinement. La tradition nous raconte qu'elle avait consacré sa virginité à Dieu dans le secret. Un choix radical, un acte d'amour total que bien peu auraient osé assumer dans la société romaine de l'époque. Ses parents, eux, n'étaient pas au courant de ce vœu-là, et donc ils l'arrangent en mariage avec un jeune noble qui s'appelle Valérien. Et le jour du mariage, alors que les invités se réjouissent, Cécile, elle, prie silencieusement, et les textes anciens nous rapportent que dans son cœur, elle chantait pour le Seigneur. C'est ce chant intérieur, cette liturgie de l'âme, qui deviendra la source de sa patronne des musiciens. Non pas la musique comme un divertissement, mais la musique comme élévation de l'âme, comme participation à la beauté de Dieu. Déjà dans sa chambre nuptiale, elle annonce à Valérien que son véritable époux, c'est le Christ. Ce moment est au cœur de sa vocation, sa vie n'est pas d'abord un récit dramatique de persécution, mais une consécration. Sainte Cécile a vécu ce que l'Église appelle la virginité pour le royaume, un don total d'elle-même qui reflète la fidélité du Christ envers son Église. Touché par cette lumière intérieure, Valérien se convertit à son tour. L'Esprit Saint travaille les cœurs et très vite, parce que Valérien et son frère Tibur se reçoivent le baptême. Mais la foi coûte cher. Dénoncés pour avoir donné à une sépulture chrétienne aux martyrs, ils furent exécutés. Cécile, elle, ne renie rien. Elle proclame sa foi avec une force étonnante et son martyr est digne des actes des apôtres. On tente d'abord de la faire mourir par la vapeur brûlante de son propre bain. Elle en ressort indemne. Son bourreau doit ensuite lever son glaive 3 coups, pas davantage selon la romaine. Et là, elle reste vivante pendant 3 jours. Le temps de distribuer ses biens, de confesser sa foi et de bénir ceux qui l'entourent, une martyre véritable témoin jusqu'à la fin. Mais ce qui frappe l'Église, ce n'est pas seulement sa mort, mais c'est cette harmonie intérieure, ce lien profond entre prière et musique. Pour les premiers chrétiens, Cécile devient l'icône de la musica sacra, la musique sacrée qui conduit à Dieu, la musique qui n'a pas un simple art mais langage spirituel. Dès le Moyen-Âge, Rome consacre une église, une basilique même construite sur sa maison à Trastevere, à Rome, et aujourd'hui encore, les pèlerins s'y pressent comme on y vient pour écouter une voix qui ne s'éteint jamais. À partir de la Renaissance, les artistes saisissent cette intuition de l'Église. Cécile ne joue pas seulement de la musique, elle l'incarne de la musique. Chez Raphaël, chez Dominique Chénio, elle est représentée dans une étude d'extase, comme si elle apercevait des harmonies que seuls les saints entendent vraiment. La musique devient par elle un avant-goût du ciel. Et les compositeurs s'en emparent à leur tour. Purcell, Handel, Gounod, chacun à sa manière chante cette vérité, que la musique sacrée est un lieu où Dieu rejoint l'homme, où le cœur se dilate et où l'âme s'élève. Et donc chaque 22 novembre, dans les paroisses, dans les chorales, dans les scolas et les organistes, fête Sainte-Cécile, c'est la fête de tous ceux qui, par leur talent et leur prière, participent à la beauté de la liturgie. Car la musique liturgique, ce n'est pas un décor, c'est aussi une prière. En Sainte-Cécile, l'Église contemple une jeune femme qui a compris cela mieux que personne, hein. La musique qui plaît à Dieu, c'est celle qui naît d'un cœur pur, d'une foi ardente et d'une vie donnée. C'est pourquoi elle est la patronne non seulement des musiciens, mais de tous ceux qui humblement cherchent laisser Dieu accorder leur vie. Au fond, Sainte Cécile nous rappelle que la sainteté est elle-même une musique, une harmonie profonde entre la volonté de Dieu et la nôtre, et que chacun d'entre nous a sa partition à jouer. Alors aujourd'hui, que l'on soit musicien ou simple amoureux de la beauté, croyant très engagé ou cœur en recherche, demandons-lui une grâce simple, celle de garder en nous ce chant intérieur, ce souffle de Dieu, qui comme chez elle, ne s'est jamais éteint.
Merci beaucoup Louis-Marie, on te retrouve la semaine prochaine pour nous faire encore découvrir le calendrier liturgique. Et d'ailleurs, pour honorer Sainte-Cécile, nous écoutons l'hymne à Sainte-Cécile, c'est le groupe Vocal Arpège. C'était l'hymne à Sainte-Cécile sur Radio Présence par le groupe Arpège. Il est 19h53, c'est déjà l'heure de se quitter. Au revoir Louis-Marie, à la semaine prochaine. Semaine prochaine spéciale d'ailleurs, parce que deux émissions. Lundi avec le frère Maxime Ancelin qui va nous parler de la chrétienté et de l'argent. Et une émission spéciale samedi pour Laura Durdon de 19h à 21h. Et puis une petite dédicace aussi pour le 15 de la Chèvre qui joue son match contre Sciences Po. On leur souhaite un bon courage et qu'ils soient assurés de nos prières. Très bonne soirée sur Radio Présence.
Bonne soirée.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.